Je vous propose de relire cette page de la Transfiguration que nous connaissons bien comme une sorte d'itinéraire spirituel, comme le chemin du disciple, comme si c'était nous que le Seigneur venait prendre et emmener avec lui sur la montagne. C'est comme un chemin de foi, un vrai itinéraire. Le premier mot est précieux et parlant. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les prend, il les saisit, une espèce d'autorité souveraine, c'est lui qui a l'initiative. C'est la force de l'appel qu'on entend tout au long des évangiles, « Viens, suis-moi ». Jésus lance un appel, et cet appel nous touche et nous saisit. Et c'est parce que nous sommes appelés que nous nous mettons en route. Ce n'est pas une espèce de tactique de séduction pour ramasser du monde, ou de domination pour avoir une emprise sur les autres. C'est pas ça du tout chez Jésus. C'est pur, c'est complet, c'est clair et net. C'est un appel qui résonne et il a en lui-même sa force. Il n'y a pas à rajouter je ne sais quelle combine pour nous avoir. Il ne s'agit pas de nous avoir, il s'agit de nous saisir. C'est pas du tout pareil. Et ça, c'est au point de départ de toute vie de foi et de toute vie spirituelle. C'est pas d'abord à moi de faire un effort, de calculer quelque chose, de réussir quelque chose. C'est d'abord que je sois là au moment où l'appel résonne. Et cet appel a en lui-même sa force et sa beauté. Et c'est ça qui me met en mouvement. Il y a une rencontre. Vous savez, cette parole de saint Paul, tout le reste m'est paru comme des balayures à côté de cette richesse extraordinaire qui est la connaissance du Christ. Et je cherche à le saisir, moi qui étais saisi par lui. Le saisissement est au cœur de l'expérience spirituelle. C'est vraiment quelque chose qui nous arrive. Mais ça nous arrive, il y a quand même une condition, c'est que je me laisse prendre. Jésus ne peut pas exercer une autorité sur moi si je n'entre pas moi-même sous son autorité, avec bonheur et volontiers. Au fond, se me laisser prendre, c'est intéressant parce que souvent je voudrais d'abord comprendre. Explique-moi, donne-moi les objectifs, les conditions, comment ça se passe. Enfin, j'essaie d'avoir tous les éléments en main, et à ce moment-là, avec une espèce de petite supériorité, je dis, bon, ben d'accord, ok, je marche, comme on dit si bien en français. Mais c'est pas ça du tout. C'est au contraire, c'est en marchant que tu vas comprendre. La compréhension accompagne le mouvement, et n'est pas une sorte de condition préalable. Il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de prendre. Et c'est ce que Jésus dit à Simon-Pierre, le jour du lavement des pieds. Pierre résiste de toutes ses forces, il ne veut pas ça, c'est le monde à l'envers, c'est moi qui devrais te laver les pieds, etc. Et Jésus dit simplement, plus tard, tu comprendras. C'est-à-dire, tu vas comprendre, non pas comme un a priori, puis ensuite, tu donnes ton acquiescement, mais c'est par ton acquiescement que tu vas voir que les choses s'éclairent. Et tu finiras, peu à peu, tu vas comprendre, en suivant le chemin. C'est en marchant, au fond, que tu traces ton chemin. C'est pas d'abord avec une boussole ou une carte. C'est, tu fais un premier pas, et ce pas permettra un deuxième, et c'est ainsi que tu vas cheminer. Il est pris, et il est pris avec lui. Ça aussi, c'est très beau. C'est qu'il ne les envoie pas quelque part, va voir là-bas si j'y suis. Non, il est avec eux, et ils sont avec lui. Jésus n'est pas là, et m'envoyant ailleurs, il m'appelle à lui, parce qu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas d'abord un but à atteindre, quelque chose à obtenir, une destination à définir, c'est vraiment un compagnonnage. Le but, c'est lui. C'est donc le « avec lui » qui est si précieux. Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Alors ça, c'est nominal, c'est personnel. Cette expérience de la foi, on ne peut pas la vivre par procuration, on ne peut pas la vivre non plus de façon collective, anonyme. Vous pouvez faire une religion en entraînant des moutons qui vont vous suivre. Mais ce n'est pas ça l'Église. L'Église naît à partir de cette expérience personnelle, nominale. Moi. Il m'appelle, il me parle, il me nomme par mon prénom. Et évidemment, on dit, pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est très touchant, vous savez, cette religieuse qui a été guérie à Lourdes en 2008 et puis a eu le procès pendant 10 ans. Vous voyez que c'est sérieux, c'est pas, on veut vérifier et authentifier l'événement. Alors du coup, elle est sous les feux des médias et on lui dit tout le temps comment ça s'est passé, etc. Et elle dit bien, pourquoi moi? Il y a tellement d'autres malades. Pourquoi c'est tombé sur moi? Je sais pas, il n'y avait pas de raison particulière. La raison, c'est ce regard du Seigneur qui se pose sur moi. Un jour, à tel endroit, voilà, il y a une rencontre. Alors Pierre-Jacques et Jean, pourquoi eux? Alors, c'est vrai que c'est aussi les trois que Jésus prend plus souvent avec lui, mais pourquoi eux plutôt que les autres? Ça, c'est le secret. C'est le secret de l'amour. L'amour choisi et on ne peut qu'accueillir ce choix. Et il les emmène tout seul, à l'écart. On a déjà parlé, hein, pendant le temps du carême, de cette solitude bienheureuse. Il y a des choses qui ne peuvent pas se passer dans le métro, qui ne peuvent pas se passer au milieu de tous les amis en train de discuter. Il y a des choses qui ne peuvent se passer que dans le secret, pris dans le secret. Jésus, vous vous souvenez, quand il est à la maison de Pierre à Capharnaüm, avant le lever du soleil, il se retire à l'écart pour être avec son Père. Et tant d'autres fois, et là, pour la transfiguration, il les emmène à l'écart. C'est constitutif de cette expérience. Elle n'est pas de la vie quotidienne, de nos affaires ordinaires que nous gérons nous-mêmes. Il faut se retirer. Et se retirer dans la hauteur. Il les emmène sur une haute montagne. Il n'y a pas beaucoup de hautes montagnes en Israël. Donc on se demande quelle était cette fameuse montagne. En tout cas, c'est en hauteur. Il y a non seulement de la solitude, mais il y a une élévation. Il faut changer de niveau. Il faut aller plus haut. Et ça rejoint, pour les apôtres qui connaissent la Bible, ben la montagne, ça fait penser à la montagne d'Abraham, tiens, qu'on vient de lire, ou de la montagne du sacrifice. Sur la montagne, il se passe des choses très importantes, très graves, très, très, très touchantes, qui engagent la vie et la mort. Et puis c'est aussi sur la montagne que Moïse reçoit les tables de la loi, la parole de Dieu, gravée, non pas dans le marbre, mais dans des plaques de pierre. Et puis c'est sur la montagne aussi que Élie va suivre les pas de Moïse à son tour et qu'il va rencontrer Dieu dans le murmure du silence. Donc la montagne, c'est changer de niveau et oser se laisser tirer vers le haut par le Christ, jusque vers le Père, jusque vers le silence de Dieu, le mystère de Dieu. Bien sûr, il faudra redescendre de la montagne, ça on le sait très bien, il faudra reprendre la vie quotidienne. Oui, mais illuminé par cette rencontre et par cette lumière d'en haut. Sinon, nous restons dans une vie de bas étage. Et là-haut, ils sont saisis par le resplendissement de la gloire du Christ. Une lumière impressionnante, éblouissante, et on pourrait presque dire aveuglante, et une blancheur. Saint Marc a été, lui, vraiment intéressé par cette blancheur incomparable. Il n'y a pas du tout l'équivalent ici-bas, même vous pouvez vous laver tout ce que vous voulez, vous n'arriverez jamais à cette blancheur rayonnante de la gloire divine. Eh bien, c'est ce resplendissement qui veut venir se déposer, se poser sur nous, nous prendre dans son rayonnement. Et cette lumière, c'est aussi la lumière biblique, hein, c'est Moïse et Élie, la loi et les prophètes. Ça, c'est un grand classique. C'est toutes les paroles de Dieu qui préparent la révélation de sa grande parole ultime, qui est le Verbe éternel, Jésus lui-même, le Verbe fait chair. La parole en qui Dieu a tout dit et tout donné. Et alors, c'est pourquoi la parole du Dieu vivant en haut de la montagne, c'est écoutez-le. C'est parce qu'il a justement cette parole lumineuse, cette parole resplendissante, que ce que nous avons à faire, c'est nous mettre à l'écoute. Au fond, le Seigneur Jésus m'entraîne avec lui dans les hauteurs pour faire de moi un homme, une femme à l'écoute. Non seulement à l'écoute du monde, à l'écoute de ceux qui nous entourent, mais à l'écoute de ce Dieu présent, caché, mais réellement présent, et qui demande des cœurs à l'écoute, qui demande des existences ouvertes à son passage, à son amour. Donc tout cela nous reconduit au Christ. Il ne vire plus que Jésus seul. Alors ça, c'est très beau, parce que ça veut dire que c'est provisoire, c'est un moment. Il y a un moment de lumière, il y a un moment de révélation, et ensuite, tout s'efface. C'est-à-dire, je ne vais pas tout le temps vivre dans cette espèce de vision, mais dans la lumière que j'ai reçue, je vais vivre le quotidien, et en toute chose, à tout instant, je verrai Jésus. Ce qui est important, c'est que je vois Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout le reste s'efface, ce qui demeure, c'est donc lui. Et mon cœur ne peut plus se détacher de lui, lui le maître. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus.